En fait, à la base, je voulais travailler dans l'environnement. Je me rappelle de dire ça ado. Dans l'environnement. Et je m'imaginais plutôt, je sais pas, travailler dans une réserve naturelle ou être animateur nature, un truc comme ça. Et finalement, en découvrant l'agriculture, je me suis aussi figuré que la paysannerie, c'était quand même la principale manière d'aménager le paysage. C'était la principale, entre guillemets, d'interagir avec l'environnement. Mais on va dire qu'on a une ferme qui est très adaptée à la culture paysanne parce qu'effectivement elle est très hétérogène dans ses natures de sol, donc ce qui nous permet aussi de valoriser tous les espaces avec les différentes activités qu'on a. Les bois, les prairies humides, les zones superficielles, les bonnes terres, on arrive à valoriser un petit peu tout. Si on faisait que des cultures, on serait bien embêté. En fait, le salaire des salariés, dans notre vision, est un objectif de la ferme, c'est pas une charge. Ouais. Il est au même titre que le salaire des associés. Okay. Un objectif. Donc voilà, il y a 100 000 euros d'écart entre le BE, on va dire, habituel qu'on considère et puis celui que nous, on regarde. Prendre le temps d'aller se présenter à ses voisins conventionnels, au gros éleveur de cochons qui est juste à côté de nous, à l'éleveur laitier avec qui on partage pas les mêmes idées politiques, pas les mêmes visions de l'agriculture, mais ça sera notre voisin et quelque chose de très important. Un voisin en ville n'est pas du tout la même chose qu'un voisin à la campagne. En fait, on peut habiter 10 ans à côté de quelqu'un en ville sans avoir affaire à lui. Ça, c'est impossible à la campagne. C'est-à-dire qu'à la campagne, forcément, on aura les vaches à arriver dans son champ, on aura forcément des interactions, en fait, parce qu'on est des usagers d'un territoire qui est le même, des interactions avec les chasseurs, des interactions. Et qu'en fait, il ne faut pas attendre l'interaction conflictuelle pour interagir. Il faut aller se présenter, il faut aller se rencontrer, il faut aller causer. Et il faut aussi mettre ses lunettes de comprendre plutôt que de juger au début. Et ça, ça fait vraiment un bien fou. Parfois, d'aller prendre le café, d'écouter les problèmes de l'autre pour tenter de créer un peu de compréhension et aussi de camaraderie, parfois là où on peut ne pas en espérer. Gracias, Pachamama.
Bonjour à toutes et tous. Je viens de terminer une nouvelle vidéo sur la ferme de Trévrault pour la série Les clés de l'agroécologie de Ferme d'avenir. La vidéo, qui sera bientôt en ligne sur YouTube, dure 30 minutes et j'avais envie de vous partager la version longue en audio sans les coupures nécessaires à la version vidéo. Si vous avez écouté l'épisode 48, vous avez entendu Benjamin Frézel, l'un des associés de la ferme, partager le modèle de Trévrault où l'on cultive les plantes pour l'alimentation humaine et où l'on réutilise les sous-produits et déchets pour élever des animaux. Nous avions dans cet épisode beaucoup parlé du fonctionnement du collectif. Ici, on va aborder chaque dimension de l'agroécologie à la ferme à travers l'outil de la fleur de l'agroécologie et vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Je vous souhaite une belle écoute en compagnie de Benjamin.
Benjamin, tout d'abord, merci de nous accueillir sur ta ferme et de prendre le temps de partager ton expérience avec les porteurs de projets ou d'autres agriculteurs et agricultrices qui regardent cette vidéo. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter, te présenter et présenter ta ferme ?
Je suis Benjamin, je suis installé là sur la ferme de Trévrault depuis 2019, donc on est dans notre cinquième année. On est 7 à travailler sur cette ferme, qui est une ferme diversifiée qu'on a convertie en bio entre autres. Et qui produit actuellement, on a 4 activités. On produit des cultures pour l'alimentation humaine, une quinzaine de plantes différentes qui sont toutes transformées en huile, en farine, en graines décortiquées. Et on a 3 petits ateliers d'élevage qui viennent se greffer autour de cet atelier de production végétale. On a des porcs en plein air, des bovins et un petit atelier de poules pondeuses. Voilà. Et on fait 1 hectare de patates quand même dans les cultures végétales, qui est un petit peu à part dans la conduite. Voilà, donc c'est diversifié, on est 7 et on vend tout en direct.
Okay.
Tout en direct, soit directement au consommateur, soit des professionnels qui revendent, transforment. Voilà, et donc moi me concernant, moi je ne suis pas issu de la ruralité ni de l'agriculture. J'ai grandi en ville, j'ai des parents qui avaient des métiers urbains. Et j'ai découvert l'agriculture en allant au lycée agricole. En fait, à la base, je voulais travailler dans l'environnement. Je me rappelle de dire ça ado, dans l'environnement. Et je m'imaginais plutôt, je sais pas, travailler dans une réserve naturelle ou être animateur nature, un truc comme ça. Et finalement, en découvrant l'agriculture, je me suis aussi figuré que la paysannerie, c'était quand même la principale manière d'aménager le paysage. C'était la principale façon, on va dire, de gérer, entre guillemets, d'interagir avec l'environnement. Et puis qu'en plus, ça me plaisait techniquement, donc voilà, je me suis lancé dedans. Donc j'ai un bac, à l'époque, c'était STAV, maintenant ça s'appelle STAE, donc c'est un bac technique agricole, qui est très théorique, hein, et qui n'a pas beaucoup de formation, en fait, finalement, pratique dedans, que j'ai complété après par un gros itinéraire en woofing et en stage, dans pas mal de fermes, étant donné que je ne connaissais pas du tout le monde agricole, que je n'avais pas du tout été initié, on va dire... J'ai passé un BTS AXE, donc analyse et conduite de systèmes d'exploitation. C'est un BTS assez généraliste agricole. Donc ça, je l'ai fait en un an en formation pour adultes. Ce qui était très dynamisant parce qu'en fait, voilà, on était à une petite promo, tous et toutes sachant pourquoi on était là. Et donc du coup, ouais, c'était assez, assez dynamique et stimulant. Voilà. Et après, j'ai évidemment recomplété ces différentes expériences avec... avec d'autres expériences de salariat ou de woofing de nouveau. Voilà. Après mon BTS, j'ai pas mal approfondi l'agriculture collective. Donc ça a été une thématique assez régulière de mes choix de ferme où j'ai voulu travailler. Voilà.
Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment vous êtes installé? Enfin, tu disais tout à l'heure que vous êtes 7.
Oui.
Un peu plus le contexte d'installation. Oui. Très rapide le contexte d'installation,
oui.
Et puis après, qui travaille sur la ferme et toi, ton rôle plus spécifiquement sur la ferme.
L'histoire du projet, quand même, c'est que aujourd'hui, on est deux associés, finalement, et on a cinq de nos collègues qui ont des statuts de salariés sur la ferme. Et en fait, cette situation, parce que avant de s'installer, effectivement, on avait mené un projet à plus nombreux. On était jusqu'à 8 à porter un projet d'installation en collectif avec plutôt une perspective d'association, et ça s'est pas fait pour plein de raisons, des bonnes raisons humaines, géographiques, temporelles. C'est très compliqué d'accorder les violons sur ces projets aussi importants. Et donc pour finir, on s'est installé à deux, et à ce moment-là, on n'a pas voulu renoncer à l'idée de travailler avec des gens, on n'a pas voulu renoncer à l'idée de la complexité technique de notre projet qui nécessitait de la main-d'œuvre, parce qu'en fait, c'est de la paysannerie, on ne remplace pas dans notre modèle les humains par des machines, ça ne marche pas bien. Et donc, en fait, on a fait le choix de dire, c'est pas grave si on n'a pas de... Si on n'a pas trouvé de personnes assez folles pour se lancer avec nous dans le projet, ou en tout cas pas assez folles, parce qu'ils se sont par ailleurs installés, donc en fait ils sont assez fous aussi, mais c'était juste que la compatibilité n'était pas là à ce moment-là.
Ouais.
Mais en tout cas, on n'a pas réussi à concrétiser ça. Et bien en fait, il y a plein de gens qui aspirent à mettre les mains dans la terre et à avoir des métiers en lien avec l'agriculture, et du coup en fait... Aujourd'hui, on s'épanouit énormément dans le fait de travailler avec des gens qui sont super motivés, qui sont hyper impliqués dans l'aventure. Effectivement, on va pas se mentir, il y a un statut employeur salarié. Ça n'empêche pas de faire de la cogestion, ça n'empêche pas d'avoir, on va dire, du partage de charge mentale, du partage de stratégie, du partage de vision à moyen long terme. Et donc là, c'est ce qu'on construit actuellement, avec voilà cette réalité-là qui fait qu'il y a quand même un rapport... qui est différent à la prise de risque, un rapport qui est différent à la responsabilité sociale, à la responsabilité économique. Voilà. On avance comme ça et c'est joyeux et constructif. Ça, c'est sur, on va dire, la partie comment humainement on a créé le projet. Sur l'aspect plus foncier, quand on cherchait une ferme, on avait élaboré un petit cahier des charges qui était assez simple. Les lignes principales, c'était de trouver une ferme avec des terres groupées, avec des terres favorables quand même aux cultures, dans la mesure où c'était l'atelier principal, et de trouver une ferme où humainement on arriverait à faire la transition. On savait pertinemment que la ferme qu'on voulait construire, elle n'existait pas. Il faudrait, on va dire, se réapproprier un outil et puis le recalibrer pour notre usage à nous. Donc ça, on ne se faisait pas d'illusion. Par contre, l'enjeu finalement principal, bon, c'est au-delà de trouver une ferme qui était compatible avec ce qu'on cherchait, c'est de trouver une ferme où on ait des cédants qui soient disposés à ce qu'on fasse ça. Parce que finalement, beaucoup de fermes qu'on a rencontrées, ils n'étaient pas disposés à ce qu'on arrête le lait, à ce qu'on arrête le cochon, à ce que voilà, à ce qu'on se lance dans un truc un peu fou. Et en plus qu'on ait un mode d'acquisition qui soit particulier. Donc il faut savoir que là, l'intégralité de la ferme, donc les, en gros les 80 hectares de terre, l'ensemble des bâtiments, la maison d'habitation et les 10-15 hectares de bois qu'on a, sont en propriété de Terre de Liens.
Okay.
Donc c'est la foncière Terre de Liens qui a acquis l'ensemble de la ferme. Voilà. Et donc du coup, ici, on a trouvé la ferme, elle cochait à peu près toutes ces cases-là. Terre de Liens s'est portée acquéreur, sur notre sollicitation. Et la transition s'est faite entre, on va dire, on a fait la visite en juin 2017 pour une installation en janvier 2019.
Okay.
Voilà. Et donc du coup, c'était une ferme laitière.
Ouais.
Il y avait 80 vaches, il y avait un robot de traite, il y avait une personne qui travaillait sur la ferme. Et donc du coup, nous, on a dû transformer effectivement un outil qui était un outil laitier spécialisé, conventionnel, avec des particularités, hein. C'était un système herbager qui était un peu atypique, très fonctionnel, avec des outils très fonctionnels pour la production laitière. On a dû le modifier, ça a été, on va dire, la grosse activité de nos premières années, de démanteler l'outil de production laitière pour le reconfigurer dans nos besoins. Donc actuellement, on est 7 personnes à travailler sur la ferme. 2 d'entre nous ont des statuts d'associés et 5 d'entre nous ont des statuts de salariés. Donc sur la ferme, on est 7 à travailler. Donc on est 2 à avoir le statut d'associé. Donc c'est Régis et moi-même, Benjamin. 5 de nos collègues qui ont des statuts de salariés, qui sont en CDI à plein temps, pour ainsi dire, plein temps ou quasi plein temps. Et donc en l'occurrence, on a Aurélia, Clémence, Mélène, Simon et Michael. En termes de répartition, comment est-ce qu'on fonctionne en fait, on est vraiment parti sur l'idée de marcher sur 2 jambes. Une jambe qui est la spécialisation et une jambe qui est la polyvalence. En fait, on n'a pas voulu trancher entre les deux parce qu'en fait, on a besoin des deux. Et c'est-à-dire qu'en fait, on a besoin que chacun et chacune puisse devenir bon. Devenir spécialiste, d'avoir son précaré dans le champ des décisions, dans le champ des petites initiatives du quotidien. On a besoin d'avoir des charges mentales qui soient concentrées sur certaines missions, parce que déjà qu'au sein de chaque mission, on a beaucoup de diversité. Donc en fait, la spécialisation pour nous est une nécessité, et la polyvalence est aussi une nécessité dans la mesure où on a un système qui est très diversifié. Le fait d'avoir des congés, le fait d'avoir des temps, on va dire, qui sont pour l'agriculture finalement partiels, c'est-à-dire que 35 heures sur une semaine entière, bah forcément ça fait qu'il y a des jours où on n'est pas là. Et donc du coup ça nécessite une polyvalence en termes de prise en charge des missions des autres. C'est-à-dire qu'en fait tout le temps, toutes les semaines, on a besoin de pallier au fait que les personnes ne vont pas être là, il va falloir prendre en charge leur mission. Et aussi parce qu'on a envie d'être diversifié dans nos missions et de parfois aller mettre le nez aux poules alors qu'on s'occupe des cochons. Donc voilà, en fait, on a tous des choses sur lesquelles on est un peu plus spécialisé, mais on sait à peu près prendre en charge ce qui se passe aussi par ailleurs. Et notamment, il y a des choses quotidiennes que tout le monde sait faire. Ramasser les œufs, nourrir les cochons, aller au marché, préparer des commandes, tout le monde sait à peu près faire, parce que c'est vraiment les choses qui se passent tous les jours. Après, effectivement, faire de la compta, conduire la moissonneuse-batteuse, faire de la mécanique.
Tu peux en dire 2 mots sur le contexte pédoclimatique du territoire ?
Donc on est situé en Bretagne Sud,
ouais.
On a un climat qui est plutôt océanique tempéré, on a des étés qui étaient jusque-là pas trop chauds et des hivers qui étaient pas trop rudes. il se trouve que le climat change, hein, et ça même à l'échelle de notre carrière, de notre jeune carrière, on le voit. D'avoir des années qui sont toutes exceptionnelles. Donc au niveau pluviométrie, on est nous ici sur un secteur qui est très très variable. C'est-à-dire qu'en fait on est sur un système avec du relief. Et donc nous ici très localement, on a la chance d'avoir un petit voisin qui nous fait des enregistrements météo précis, notamment la pluviométrie depuis plusieurs dizaines d'années. Donc voilà, on sait exactement où on en est. On a à peu près 800 mm d'eau par an, mais avec des variables qui sont très importantes. Voilà. Et sur le sol, on a la particularité d'être sur une ferme qui a un peu de relief. Et donc une grande, très grande hétérogénéité de qualité de terre. En fait, ça va de terre très superficielle, très caillouteuse sur les hauteurs de la ferme, ou même qui sont des prairies, on va dire, permanentes, parce qu'on ne peut pas mettre une charrue dedans, à des terres très humides dans les bas-fonds, le long de la rivière. Et entre les deux, on a du très bon, ouais, du bon, on n'a pas de très bon, on a très peu de très bon, mais on a du bon avec de la profondeur de sol. Et donc, toute la roche mère, c'est du schiste ici. Donc voilà ce qui donne notamment des variations de sol même au sein des parcelles qui sont très très hétérogènes. Voilà. Mais on va dire qu'on a une ferme qui est très adaptée à la culture paysanne parce qu'effectivement elle est très hétérogène dans ses natures de sol, donc ce qui nous permet aussi de valoriser tous les espaces avec les différentes activités qu'on a. Les bois, les prairies humides, les zones superficielles, les bonnes terres. On arrive à valoriser un petit peu tout. Si on faisait que des cultures, on serait bien embêté. Donc la ferme est située sur la commune de Serrant. Serrant qui est sur un massif qui s'appelle les Landes de Pigneux, Landes de Lanvaux, et qui est située, on va dire, à mi-chemin entre Vannes, qui est dans le fond du golfe du Morbihan, et Plouharmel, qui est une ville de centre-est Morbihan.
Si tu devais présenter la philosophie générale de ta ferme en une phrase, comment la décrirais-tu ?
Il faut réfléchir longtemps.
C'est non, mais j'ai,
en une phrase, la philosophie générale de la ferme de Trévrault, c'est l'idée de construire un système agricole force de proposition, techniquement et socialement, en se faisant plaisir. Construisant un modèle, on va dire, humain, plaisant.
Okay. Voilà. Pour mieux appréhender la complexité de l'agroécologie, Ferme d'Avenir a développé l'outil visuel La Fleur de l'agroécologie qui va être utilisé pour présenter ta ferme d'un point de vue économique, social et environnemental. Pour commencer sur le volet économique, est-ce que tu peux me dire quels sont vos résultats ?
Oui. En termes économiques ?
En termes économiques, ouais. Principalement en termes de viabilité notamment.
Ouais. Alors, pour présenter dans les grandes lignes la réalité économique de la ferme, donc on a 5 ans d'existence, donc c'est des résultats qui ne sont pas, on va dire, des résultats de rythme de croisière. On fait un chiffre d'affaires d'environ 550 000 euros, là c'est l'année dernière, et cette année on devrait être un peu au-dessus. On fait un EBE, là de 110 000 euros, mais auquel en fait, pour bien comparer, il faudrait rajouter les 100 000 euros de salaire. Si on voulait comparer, on va dire, le résultat social. Parce qu'en fait, le revenu des associés est après l'EBE, est dans l'EBE, alors que le revenu des salariés est passé en charge dans la comptabilité traditionnelle. En fait, le salaire des salariés, dans notre vision, est un objectif de la ferme, c'est pas une charge. Ouais. Il est, au même titre que le salaire des associés, un objectif. Donc voilà, il y a 100 000 euros d'écart entre l'EBE, on va dire, habituel qu'on considère, et puis celui que nous, on regarde, quoi. Voilà. Aujourd'hui, la ferme, on peut dire qu'elle tourne économiquement, c'est-à-dire qu'elle, on fait face à nos annuités. Alors, on a des grosses annuités dans la mesure où on a beaucoup investi sur tous nos ateliers. Là, on a des annuités autour de 80-90 000 euros par an sur les différentes années, parce qu'en fait, on a beaucoup investi sur l'ergonomie, sur le fait d'avoir des ateliers qui soient efficaces. Le salariat y est pour beaucoup en fait dans la ferme, c'est-à-dire que nous, on peut pas compenser des ateliers faiblement investis par une grosse charge de travail. Il faut qu'en 35 heures, on réussisse à être productif. Donc ça nécessite d'avoir des ateliers qui soient efficaces, efficients en termes de... Alors, faut pas faire n'importe quoi, faut pas investir pour juste se rassurer, se dire qu'on investit. Mais en tout cas, on a cette nécessité-là de rendre le temps de travail efficient. Voilà, et aujourd'hui, on peut dire que on fait face... aux crises, parce qu'en fait c'est l'enjeu principal aujourd'hui hein, des filières. On fait face aux crises, bon an mal an, on les sent quand même passer, mais on arrive à s'y adapter parce que effectivement on a un système de production qui est très diversifié et on a aussi un système de commercialisation qui est très diversifié et qu'on maîtrise, c'est-à-dire qu'en fait on ne vend absolument rien en filière longue. Longtemps les filières longues bio étaient bienveillante et rentable entre guillemets pour les paysans. Aujourd'hui, là, depuis quelques temps, on est rentré dans une crise qui est assez sévère. On se rend compte que le capitalisme traite de la même façon le paysan conventionnel que le paysan bio, que si pendant 10 ans ou 20 ans ça s'était bien passé, c'est essentiellement parce qu'on avait des acteurs qui étaient bienveillants et qu'on avait des acteurs des filières qui étaient bienveillants et un contexte de demande qui était très favorable, mais c'était conjoncturel, c'était pas structurel. Et donc nous, nous on arrive, on le sent, c'est-à-dire qu'on sent que dans les tendances de consommation, il y a des inversions fortes qui se font d'une année à l'autre. Et voilà, et nous on arrive à y faire face, d'une part parce qu'on commercialise sur des territoires qui sont différents, et du coup on arrive à jongler un peu entre la variation des demandes, d'une part, et d'autre part, le fait qu'on soit diversifié en termes de type de débouché, et ben c'est pareil. Si les restaurateurs y peinent un peu, en fait, on arrive à aller au marché. Donc voilà, donc en fait, globalement, on a réussi à faire face, mais le contexte est, faut se le dire, pas facile du tout. Voilà. Et en plus, dans un contexte d'inflation, où en fait, quand on fixe des prix, quand on s'installe, et ben, en fait, il faut pas se reposer sur ses lauriers et les recalculer régulièrement pour pas augmenter inconsidérément en se disant « Ah, c'est la folie, il faut augmenter », et sans pour autant se laisser endormir. Et quelquefois, malgré qu'on soit autonome, on est dépendant de plein de fournisseurs d'emballage, d'énergie, et bien, en fait ça il faut quand même rester connecté à ces éléments là parce que notre rentabilité, c'est une rentabilité agricole quand même, elle reste faible, c'est des petites marges qu'on fait, et ces petites marges elles sont vite grignotées par des charges qui augmentent vite, quoi.
Donc tu as parlé d'autonomie, votre viabilité est permise aussi par votre autonomie, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de l'autonomie de la ferme?
Alors nous l'autonomie on la voit avant tout en termes décisionnels, en termes politiques, en termes de souveraineté. On la voit pas en termes techniques. L'autarcie n'est pas du tout une aspiration chez nous. Et en fait, on est extrêmement dépendant de beaucoup d'acteurs autour de nous. En fait, par exemple, la première dépendance qu'on a, c'est tous nos partenaires avec qui on transforme nos productions. En fait, on a fait le choix en s'installant de produire et de vendre. Produire parce que c'était l'aspiration de notre métier, vendre parce qu'on a considéré que c'était un mal nécessaire pour pouvoir justement assurer cette souveraineté-là et de pouvoir faire face aux situations en décidant de nos prix, en gérant nos systèmes de commercialisation. Et par contre, toute la transformation, on la délègue. Donc on a un collègue qui est paysan meunier qui nous fait la farine, on a un voisin qui est boucher qui nous découpe les cochons et les bovins. On a un ESAT voisin qui nous fait le calibrage des œufs parce que tous les œufs passent en centre de conditionnement. On a une huilerie qui est implantée localement qui nous presse l'huile. Donc en fait, on n'est pas du tout autonome sur ces aspects techniques-là. Par contre, on ne sort jamais, pour ainsi dire, du département. C'est-à-dire que la quasi-intégralité, il faudrait qu'un jour je regarde ça un peu sur nos factures, de calculer le taux, on va dire, départemental de nos partenaires, mais il est énorme. Il est énorme, la grande majorité des structures avec lesquelles on interagit, elles sont territoriales.
À 40 km grand max
Oui, voilà, c'est ça l'ordre d'idée. Oui, c'est qu'on va rarement de l'autre côté du Morbihan. Ouais. La plupart de nos fournisseurs, que ce soit des fournisseurs de matériel, des fournisseurs de services, des fournisseurs de prestations, sont vraiment très locaux, quoi. Donc en fait, on a une autonomie territoriale. Mais après, oui, effectivement, en termes techniques, on est peu autonome. Par exemple, on cultive sur la ferme des végétaux pour l'alimentation humaine. Et en fait, on a fait le choix. Donc tous les cochons, on en parlera après sans doute, ils consomment des sous-produits et des déchets. Pour les poules, on distribue encore à nos poules des végétaux qui ont été cultivés. C'est pas un objectif à terme, mais pour l'instant, c'est encore le cas. Et là, par exemple, on a fait le choix de nous privilégier pour la ferme les productions qui sont liées à l'alimentation humaine. Et on achète encore du triticale. Et du maïs, c'est un voisin qui est céréalier bio et qui est notre voisin immédiat qui nous fournit la base alimentaire pour nos poules. Et ça nous va tout à fait. Ouais. ça reste quelque chose d'autonome.
Ouais, donc votre autonomie, elle est aussi bien au niveau de la ferme avec des liens entre ateliers qui sont très forts. Peut-être tu peux en parler un petit peu de ça. Et dans le territoire. Donc tu as commencé par l'autonomie, tu as commencé par parler de la non-autonomie de la ferme qui va évoluer un petit peu, mais vous serez toujours en partenariat avec des partenaires du territoire. Et donc au niveau de la ferme, est-ce que tu peux parler des liens entre ateliers?
Oui. Alors c'est la base en fait de la réflexion de base qu'a construit les modalités techniques aujourd'hui de la ferme. En fait, on est parti de deux postulats qui étaient assez forts dans notre lecture des enjeux autour de l'agriculture. Le premier, c'est que il y a une remise en cause des conditions d'élevage et des raisons pour lesquelles on élève des animaux aujourd'hui qui est très très forte, qui est en partie pertinente. Pour d'autres considérations, nous, on s'y associe pas du tout. Mais en tout cas, effectivement, à notre sens, il y a une modification de la proposition de l'agriculture à faire concernant l'élevage, la place et le rôle de l'élevage dans l'agriculture. Ça, c'était une première chose qui nous tenait à cœur. Et la deuxième chose qui nous tenait à cœur, c'était quelque chose autour de la gestion des ressources. Et notamment, une ressource principale en agriculture, c'est le foncier. En fait, pour prendre une considération très large, il y a peu de terres émergées sur la terre. Et dans ces terres émergées, il y a très peu de terres arables. Et on est beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, une des grosses critiques qui est faite à l'élevage, c'est de dire que de produire des végétaux pour nourrir des animaux, c'est pas efficace parce qu'il va falloir, alors, suivant les théories qu'on a, il faut 12 protéines ou tant d'énergie de végétale pour produire tant de protéines animales végétales, c'est pas efficace. Il faut pas manger d'animaux, il faut manger des végétaux. Alors certes, effectivement, cultiver du maïs et du blé sur des terres arables pour nourrir des porcs, notamment faire de la viande, parce que le calcul pour le lait et les œufs est sans doute très différent dans la mesure où c'est des sous-produits animaux et où du coup on a un rendement globalement qui n'est pas le même. Donc ça se discuterait pour moi un peu plus. Par contre, effectivement, de produire de la viande à partir de végétaux qu'on a cultivés sur des terres qui pouvaient produire des végétaux pour nourrir les humains, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du gâchis dans cette dynamique-là. Et en fait, nous, une des réactions qu'on a eues à cette idée-là, c'est certes, il faut 12 protéines végétales pour faire une protéine de bœuf, mais en fait, la question n'est pas de savoir combien de protéines végétales il faut pour... c'est pas la vraie question. La vraie question, c'est d'où viennent ces protéines végétales. Et que si c'est des protéines végétales qui sont disponibles de manière inéluctable et que nous, on ne peut pas consommer à la base et que la vache nous transforme une protéine végétale en une protéine animale que nous, on peut consommer, dans ce cas-là, il y a un intérêt nutritionnel et agroécologique qui est énorme. Et donc, en fait, on ne peut pas avoir la même considération pour de la viande qui est produite en zone pastorale, en moyenne montagne, où on ne pourra rien faire d'autre que faire pousser de l'herbe et produire de la viande, que effectivement de produire de la viande sur 12 mètres de limon avec du maïs et du triticale. Effectivement, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas du tout la même dynamique, c'est pas le même rendement, c'est pas la même efficacité agricole, technique, écologique. Et donc concrètement sur la ferme, notre philosophie c'est de dire, on a 60 hectares de cultivables. Notre objectif est de mettre en culture un maximum de cette surface-là pour produire des végétaux destinés à l'alimentation humaine. Et donc du coup, aujourd'hui, voilà ce que je disais, on produit une quinzaine de plantes pour faire de la farine. On fait 5 farines différentes, de l'huile, 3 huiles différentes, du colza, du chanvre, de la cameline. On produit du sarrasin décortiqué, de la lentille verte et des pommes de terre, 1 hectare de pommes de terre. Et nos 3 élevages, ils sont venus se dimensionner et s'articuler autour de cette production de végétaux pour en fait valoriser des ressources dont on dispose sur la ferme et qui ne sont pas consommables par des humains. La première ressource qui n'est pas consommable par des humains sur un système comme le nôtre, en fait, tout simplement, c'est l'herbe. Parce qu'en fait, sur une ferme de 80 hectares comme la nôtre, déjà, on a une quinzaine d'hectares de surface qu'on ne peut pas cultiver parce qu'elles sont trop superficielles, trop humides, inconformes pour les cultiver. Et donc, du coup, on y fait pousser de l'herbe. Et cette herbe-là est destinée, évidemment, à nos bovins. La deuxième surface d'herbe dont on dispose, c'est les prairies temporaires. En fait, dans notre rotation, qui dure à peu près 10 ans, on va introduire 3-4 ans de prairies. Alors, ce n'est pas une prairie qui est semée pour produire des fourrages pour les animaux, c'est une prairie qui est implantée au service de la rotation. Parce que c'est un moyen aujourd'hui de restructurer le sol, de remonter le taux de matière organique, de se débarrasser de certaines mauvaises herbes. Et donc, le sous-produit, c'est l'herbe, mais l'objectif initial, c'est de nourrir la rotation. Et donc du coup, ça nous fait aussi 10-15 hectares de prairies où inéluctablement, on va produire de l'herbe. Et donc, le premier sous-produit, c'est l'herbe de la ferme. Et donc, on a un troupeau d'une trentaine de bovins qui consomment cette herbe-là, qui sont élevés en plein air intégral et qui ne mangent rien d'autre que de l'herbe de la ferme, produite sur ces surfaces-là. Voilà, ça c'est le premier sous-produit. Le deuxième sous-produit, c'est tous les déchets qui sont issus de la transformation de nos végétaux pour l'alimentation humaine. Ça commence en fait à la sortie de la moissonneuse-batteuse. On va trier, nettoyer notre récolte et on va en fait sortir de la récolte des graines d'adventice, des petites graines avortées, des grosses graines qui passent dans le trieur, qui vont déjà faire une fraction en fait de nos récoltes qui n'est pas propre à l'alimentation humaine. Et ensuite, dans les différentes phases de transformation, eh ben, on a le son de la farine, le tourteau de l'huile, les lentilles cassées, tout ça qui sont des déchets de l'alimentation, enfin de nos végétaux pour l'alimentation humaine. Et en plus, on a aussi des cultures ratées. C'est que parfois, on moissonne une culture et on se rend compte que ça ne va pas du tout le faire parce que, problème sanitaire, on a un champignon qui s'est développé sur la culture, on a, c'est beaucoup trop sale, on n'arrivera jamais à le trier. Et dans ce cas-là, pouf. Là, les cochons, c'est pour ça qu'on a mis en place un élevage de cochons, viennent consommer toutes ces fractions de notre production de végétaux pour l'alimentation humaine qui finalement sont impropres. Et même au bout de la chaîne, eh ben on a des pertes. Parfois, on a une farine qui s'est fait contaminer par les mites. On a de l'huile, un fond de cuve qui est un peu ranci. Pouf, cochon. Et le quatrième atelier, c'est les poules. Alors, les poules s'extraient un petit peu de cette dynamique-là. L'intention qu'on a eue au départ était vraiment de construire un atelier poules parce que la manière dont on élevait des poules en bio jusqu'à aujourd'hui ne nous convenait pas du tout. On avait le sentiment qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Et donc, on a monté un atelier de 4 bâtiments mobiles en poule pondeuse. Pour le coup, c'est très expérimental. Et là, l'objectif de cet atelier, c'est d'innover, d'expérimenter un mode d'élevage de poules pondeuses alternatif, notamment basé sur le prélèvement d'une partie de leur alimentation par elle-même sur un parcours riche en protéines. Donc voilà, on pourra en reparler, mais c'est finalement un atelier dont on aurait pu se passer dans la réflexion technique globale de notre ferme, parce qu'effectivement, avec les poules, avec les cochons, les bovins et les cultures, on avait déjà quelque chose de très cyclique qui interagissait de manière très, très vertueuse.
Okay.
Voilà, et les poules sont un petit peu satellitaires.
Bon, je pense qu'on a bien abordé le volet économique. On pourrait en parler des heures. Hein. Mais voilà, je pense qu'on peut passer au volet environnemental.
Ouais.
Qu'est-ce qui montre que la ferme est performante sur le volet environnemental? Alors, si ce mot-là ne te convient pas, tu peux le dire aussi. Quelles sont les actions mises en place? Et tu peux faire un focus sur le soin de la biodiversité, sur les replantations d'arbres, sur...
Ouais.
Puis juste la cohérence aussi entre ateliers. Hein, c'est...
En fait, on a une approche sur les aspects environnementaux qui est extrêmement... qui est très paysanne. C'est-à-dire qu'on... On a de la contemplation pour la biodive, on a de la contemplation pour la nature, mais on reste des producteurs. Et dans notre relation à notre ferme, c'est ça qui prime. C'est-à-dire qu'on en tire parti. Après, effectivement, on a une attention forte à laisser sa part, entre guillemets, à la nature, même si le concept vraiment, enfin, sur lequel on travaille hein, et on évolue beaucoup, c'est de moins en moins tenter de considérer la nature comme quelque chose d'à part et de vouloir soit la préserver, soit la détruire suivant les zones où on va intervenir, mais d'avoir une approche très globale et nous de sentir part aussi de cette nature-là et de peut-être finalement de moins en moins être dans la contemplation et de plus en plus dans la fusion. Et du coup, comment ça se traduit? Ça se traduit par le fait que toute la ferme, sur toute la ferme, on va aller faire des choses. On va mettre les bovins, on va mettre les cochons dans les bois, on va cultiver des parties, on va planter des arbres dans des coins qui deviendront des ressources alimentaires. Et partout aussi, on travaille à abandonner aussi des leviers au productivisme. Pour voilà, abandonner des petites zones. Alors effectivement, on a planté quasiment 5 km de haies depuis qu'on est installé. On a créé des mares avec plein d'acteurs différents. On a travaillé avec le bassin versant. On a travaillé avec la Fédération des chasseurs de Bretagne. On a travaillé avec Bretagne Vivante, qui est notre voisin qui gère un espace naturel qui est collé à la ferme, une tourbière. Voilà, donc on est très multi-acteurs, c'est passionnant parce que ça frite pas mal et du coup, nous, on aime, au milieu de tout ça, on aime beaucoup interagir avec ces différents acteurs-là. Voilà, en tout cas, effectivement, là, depuis qu'on est installé, on a travaillé sur pas mal la mise en place d'espaces qui nous manquaient finalement quand on a repris la ferme. Il n'y avait plus de mare, il y avait des haies qui avaient été replantées, mais on a continué ce travail-là. Et après, effectivement, les espaces de travail, le parcours des cochons, le parcours des poules, et ben en fait, on est aussi sur des dynamiques de diversification très fortes de l'agro-système, planter des arbres fruitiers un peu partout, avoir des espèces très diversifiées dans ce qu'on sème. Donc en fait, il y a une biodiversité élevée et cultivée qui est très importante aussi. Mmh. Voilà. Après, concrètement, dans cette idée-là, par exemple, de rapport enfin, qui tend à être moins contemplatif et plus fusionnel. Par exemple, on a un rapport à la chasse qui est assez ouvert. Où en fait, pour nous, en fait, le rapport de prédation qu'on peut avoir dans la chasse, il peut être aussi désastreux que certaines formes d'élevage peuvent avoir avec le vivant. Il peut être aussi vertueux que certaines formes d'élevage peuvent avoir avec le vivant. En fait, encore une fois, là, on parle d'un rapport à la vie, d'un rapport à l'environnement, d'un rapport à soi-même, à la mort. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai facilement tendance à dire que l'abolitionnisme de l'élevage et l'industrialisation de la mort et de l'élevage, pour moi, je les renvoie un peu dos à dos. C'est que d'un côté, j'ai l'impression qu'on a la négation de la mort, et de l'autre côté, on a la négation de la vie. en fait, moi, je me sens un peu au milieu de tout ça. C'est que la mort, en fait, elle est quotidienne. Nous, tout meurt un jour. Donc, en fait, j'ai abandonné l'idée qu'on pourrait s'en débarrasser de la mort. Elle fait partie des cycles. Elle est, en fait, elle peut être extrêmement vertueuse, parce qu'en fait, la mort, elle est nourricière. Tout ce qu'on mange a été vivant un jour, et donc au moment où on le mange, pas longtemps après, il est mort. On s'en nourrit en fait de la mort, elle nous fait vivre. Et du coup, en fait, dans ce rapport à l'environnement général, moi, de cueillir, chasser et prélever aussi une partie de notre alimentation sur la ferme dans sa fraction de sauvage, me semble être un rapport aussi vertueux que... quand on élève une poule, on cultive du blé ou on plante un arbre. C'est le même rapport nourricier. Après, effectivement, il peut devenir délétère et désastreux quand il devient irrespectueux, quand il devient non nourricier, quand on tue des bestioles pour les balancer sur le talus. C'est désastreux. Et c'est comme quand on élève des animaux pour les flinguer après. Parce que l'industrie considère qu'ils ne sont pas aptes ou pas plus. Enfin, bref. Oui. Voilà, tout ce qu'on connaît des dérives.
On ne les élève pas d'ailleurs, on les produit dans ce cas-là.
On les produit. Oui. Voilà. Donc voilà, donc on chasse. Et ça fait partie de notre rapport à un environnement avec lequel on veut fusionner un petit peu.
Et pour terminer sur l'aspect social, comment la ferme contribue à la société à l'humain, à la sécurité alimentaire, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça?
Ouais. Alors, donc nous, on a eu, c'est vrai, une approche très technique sur la construction de notre modèle. Sur les aspects, on va dire, humains et sociaux, on a d'abord mis l'accent sur notre structuration interne. C'est-à-dire qu'on souhaite que notre modèle, il soit propice... à notre épanouissement, à nous, c'est-à-dire nous, l'équipe, les gens qui nous entourent. On souhaite que ça soit une source d'inspiration, ou en tout cas une force de proposition. Et ça, c'est un truc important, c'est que là, dans ce qu'on a construit, on n'a pas du tout la prétention de dire que il faut que tout le monde fasse ça. Vraiment, on a toujours le sentiment que c'est une proposition, c'est une tentative, c'est un laboratoire. Et en fait, de ça, on n'est pas en train de dire, Eureka, aujourd'hui, on ne dit pas du tout Eureka, c'est ça qu'il faut faire. On dit, voilà ce qu'on a fait, qu'est-ce que le reste de l'agriculture, qu'est-ce que le reste de la société en pense, qu'est-ce que ça inspire, Est-ce qu'il y a des choses là qui peuvent être, on va dire, source de solutions pour demain? Est-ce qu'il y a des choses qui, oui, définitivement, semblent pas intéressantes? En fait, on est très ouvert à tout ça. Et on n'a pas du tout un rapport, on va dire, de génie avec ce qu'on a fait là. On a un rapport d'humilité, de dire, bah voilà, c'est une tentative. Et donc ça, je dirais que c'est un apport important à notre sens. Après, effectivement, en termes nourriciers, bon, on peut dire qu'on nourrit que des gens du coin, parce qu'en fait, on commercialise l'intégralité de notre production dans un rayon de 35-40 km, avec, bon, on va à Rennes de temps en temps, c'est le plus loin où on va, parce qu'on est rennais à la base, et rennais à 80 km. Donc voilà, ça reste quand même très local comme distribution alimentaire. Après, c'est vrai que là où je voulais en venir, c'est que sur l'aspect purement commercial et nos choix de débouchés, en fait, il faut vraiment dire que nous, la vente, le fait de vendre nos produits, est définitivement, et la crise là qu'on est en train de traverser, la crise du bio, nous l'a vraiment fait prendre, voilà, réaliser, c'est qu'on est, c'est un mal nécessaire, la vente, direct. C'est-à-dire qu'en fait, nous, si on avait pu s'arrêter à la production, on aurait été très contents. Et que en fait, là, se rajouter un deuxième métier, qui est celui de marchand, à celui de producteur, en fait, on l'a fait que parce que, finalement, la manière dont on produit des plantes et des animaux aujourd'hui, dont on les élève et qu'on les cultive, en fait, est incompatible avec les filières longues. Et en fait, la filière longue, à la base, c'est le principe de dire les paysans, vous vous préoccupez de produire et on va organiser la distribution et la valorisation de nos productions. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on a perdu toute confiance dans ces filières-là. Et donc, en fait, on avait des ambitions techniques qui étaient tout à fait incompatibles. C'est-à-dire que les cochons sur la ferme, pour prendre queue, la manière dont on les élève, en fait, on pourrait pas justifier économiquement cette méthode d'élevage dans une filière longue bio. Donc, en fait, les vendre en direct était une nécessité pour pouvoir justifier le modèle technique. Et en fait, aujourd'hui, on le vit vraiment comme ça. C'est-à-dire que notre activité de commerçant, on le fait parce qu'il faut le faire. Et que dans cette activité commerciale, finalement, moi, je considère que c'est ce qu'on fait de moins alternatif et de moins inspirant, finalement, par rapport, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est du commerce. C'est-à-dire qu'en fait, on va sur les marchés, on va voir d'autres commerçants et on fait du business, on fait du commerce, on leur vend notre production. Et plus ça avance, plus c'est dur, finalement, à faire face parce qu'on s'en passerait bien déjà de faire ce boulot-là et qu'en plus, la manière dont est aujourd'hui organisée la distribution alimentaire, et bien en fait, on se rend compte qu'on vend nous des saucisses, de la farine de blé et des œufs, comme nos voisins de marché vendent des ceintures en cuir made in China, des saucissons à 3 euros et n'importe quelle merdouille, j'ai envie de dire, qui peut être vendue dans le commerce. C'est-à-dire qu'en fait, notre modèle ne préserve pas du tout la distribution alimentaire. Il est soumis à la violence économique au même titre que tout le reste. Et du coup, ça, en fait, c'est terrible. C'est que nous, on a vraiment le sentiment de se dire, en fait, quand même, ce qu'on fait ici, on espère que c'est plus précieux et plus à préserver que le ceinturon en cuir de mon voisin ou les saucissons à 3 euros. Voilà,
si c'était du cuir d'un
oui, mais d'un non, là, c'est des ceintures à 10 balles. voilà, ouais, je m'entends très bien avec ces gens-là et j'ai de la joie à interagir avec eux. Mais toujours est-il qu'en termes économiques, il me semble que c'est foncièrement dangereux de mettre sur le même plan une production nourricière paysanne locale. Et d'ailleurs, toute la production alimentaire, d'ailleurs, qu'elle soit traitée comme n'importe quel bien marchand, en fait, est quelque chose de définitivement dangereux et mortifère, je trouve. Donc en fait, aujourd'hui, vraiment, ce que je veux dire par là, c'est que notre activité de distribution alimentaire et de commerce, on s'en passerait bien, et que si la société pouvait s'organiser différemment pour nous rétribuer dans notre boulot de production et s'occuper de la distribution de notre production, et ben en fait, on serait très content. Et en fait, on est aujourd'hui extrêmement attentif et sensible à ce qui est en train de se discuter, parce que pour l'instant on est au stade des discussions autour des idées de sécurité sociale de l'alimentation. Moi, c'est un des rares sujets qui m'inspire aujourd'hui quand on parle de distribution des produits alimentaires, parce qu'en fait là aujourd'hui, nous, on participe à plein de choses. On participe Alors, j'allais dire à des AMAP. Et finalement, les AMAP sont un peu, je dirais, le seul débouché qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, sachant qu'il est très discret, parce qu'elles sont un petit peu quand même résumées à une petite fraction de la distribution alimentaire. Et ça n'a pas eu l'essor qu'on aurait imaginé avoir. Mais finalement, les AMAP sont les seuls lieux de distribution où on a essayé de faire un pas de côté complet par rapport à vraiment à la distribution libérale des biens alimentaires. Où en fait, la MAP est le seul endroit où finalement, on n'a pas tout à fait le choix de ce qu'on mange, on n'a pas tout à fait, on va dire, on a renoncé à une partie de notre liberté de consommateur en faveur de la stabilité et de la souveraineté des modèles économiques des producteurs. Et ça, je trouve ça inspirant, mais effectivement, dans notre société ultralibérale, c'est quelque chose qui n'a pas fructifié, parce qu'on est, tous drogués au fait, à notre liberté absolue d'acheter ce qu'on veut et manger ce qu'on veut quand on veut. Voilà, donc pour dire que voilà, sur les aspects sociaux, effectivement, moi je considère que notre système de distribution reste un mal nécessaire et finalement quelque chose qu'on fait un peu de manière mécanique en reprenant les codes de ce qui se fait et de ce qu'on sait qui marche en termes de communication, de commerce. Et c'est dommage. Mais là-dessus, on manquera d'imaginaire, nous, à notre échelle, pour faire avancer les choses.
Est-ce que tu peux nous dire encore quelques mots sur comment la ferme contribue à la dynamique du territoire ?
Bien sûr.
Comment vous êtes connecté au territoire ?
Ouais. Alors, on est très connecté au territoire. D'une part parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, on travaille quasiment uniquement avec des entreprises qui sont à moins de 40 km de chez nous. Et que, en fait, effectivement, on a un tissu d'interaction qui est très très riche localement. On commercialise l'intégralité de notre production localement. Donc déjà, dans ce sens-là, on n'est pas hors sol. Et ensuite, effectivement, alors on pourrait parler quand même de la création d'emplois, qui est quand même pas rien. Même si nous, c'est moins un graal que ça peut être dans d'autres imaginaires politiques. Mais bon, on peut quand même se réjouir là sur une ferme où il y avait une personne qui travaillait avant, là d'être 7 aujourd'hui. Voilà. On participe quand même très fortement à des dynamiques de formation et d'émergence, de désir d'agriculture. C'est-à-dire qu'on accueille beaucoup de stagiaires, beaucoup de woofers, on accueille beaucoup de classes de visite pour partager ce qu'on fait, montrer ce qu'on fait, se faire confronter sur ce qu'on fait. Voilà. Et aussi, on a commencé l'année dernière à faire des événements à la ferme. Donc tous les premiers vendredis des mois de l'été, juin, juillet, août, septembre, on organise une petite fête à la ferme avec restauration, visite de la ferme, voilà, avec le soutien d'une association qui s'appelle les Amis de Trévoux, qui est un peu une association maison, on va pas se mentir, qui nous soutient là-dedans, voilà, dans l'organisation de ces événements-là.
Merci Benjamin. On peut voir apparaître la fleur de ta ferme à l'écran, se rendre compte de l'ensemble des défis agroécologiques auxquels ta ferme répond. Où verrais-tu des marges de progression ? Est-ce que tu as des pistes d'évolution de tes pratiques ? Voilà, quelques marges de progression que vous avez sur la ferme.
Alors, sur les élevages, on est assez clairvoyant finalement de là où on veut aller. Et on est en train de le mettre en place. Tout c'est pas abouti, il y a plein de choses encore, les poules notamment, il y a encore beaucoup de choses à faire. Sur les poules, on aimerait voilà, vraiment avancer sur l'aspect alimentaire, vraiment avancer aussi sur l'aspect reproduction. On continue d'acheter des poulettes prêtes à pondre et demain on aimerait vraiment à terme maîtriser notre production comme on le fait avec des vaches ou des cochons. Ça c'est vraiment une aspiration, mais je veux dire là on sait où on va et on y travaille. Et sur les cultures, c'est vrai que c'est quand même une production qui est beaucoup plus qui contraint beaucoup plus à l'humilité, parce qu'en fait on est sur des cycles très longs et sur une maîtrise beaucoup moins importante des facteurs. C'est-à-dire que la météo, notamment le climat, il influe énormément sur les cultures, plus que sur nos élevages. Les élevages, on arrive à compenser un peu les éléments climatiques. Sur les cultures, on en est 100% dépendant. Et c'est vrai que sur les cultures, ben, le sol est quelque chose de très complexe et très fascinant. Et donc, bah, c'est vrai que là, sur ce travail autour des pratiques culturelles, autour de la valorisation des cultures qu'on a, en fait, est quelque chose sur lequel, effectivement, il y a sans doute beaucoup de chemin à parcourir encore pour effectivement sortir du travail intensif du sol, sortir progressivement de la fertilisation, en tout cas de la concevoir différemment de l'approche actuelle. Donc là-dessus, effectivement, il y a sans doute encore du chemin à parcourir en termes aussi de compréhension de ce qui se passe vraiment dans les sols. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez vertigineux.
Voilà. Merci pour cette humilité. Et pour finir, est-ce que tu as un conseil à donner aux porteurs de projets qui vont s'installer ou à un autre agriculteur qui se questionne sur sa transition?
Eh bien, conseil. Alors, conseil aux porteurs de projets, il y en a plein, et puis il y a plein de choses issues de l'expérience, et puis après, ça va varier beaucoup, mais en tout cas, quelque chose, je pense, qui a du sens, c'est de quand même faire la tentative du lien au territoire, pas que la fraction alternative du territoire, et aussi la fraction, on va dire, historique. Et c'est-à-dire que je constate quand même que dans les campagnes, les gens qui viennent s'installer en néo-paysannerie ont beaucoup de difficultés à communiquer avec le monde agricole en place et inversement. Et en fait, je pense qu'il faut un petit peu réussir à défragmenter ces liens-là et qu'en fait, tout simplement, prendre le temps d'aller se présenter à ses voisins conventionnels, au gros éleveur de cochons qui est juste à côté de nous, à l'éleveur laitier avec qui on partage pas les mêmes idées politiques, pas les mêmes visions de l'agriculture, mais ça sera notre voisin, et quelque chose de très important. Et que moi, pour avoir grandi en milieu urbain et aujourd'hui être un rural, j'ai vraiment compris que un voisin en ville est pas du tout la même chose qu'un voisin à la campagne. En fait, on peut habiter 10 ans à côté de quelqu'un en ville sans avoir affaire à lui, ça, c'est impossible à la campagne. C'est-à-dire que à la campagne, forcément, on aura les vaches à arriver dans son champ, on aura forcément des interactions, en fait, parce qu'on est des usagers d'un territoire qui est le même, des interactions avec les chasseurs, des interactions. Et qu'en fait, il ne faut pas attendre l'interaction conflictuelle pour interagir. Il faut aller se présenter, il faut aller se rencontrer, il faut aller causer. Et il faut aussi mettre ses lunettes de comprendre plutôt que de juger au début. Et ça, ça fait vraiment un bien fou, parfois d'aller prendre le café, d'écouter les problèmes de l'autre, les réalités, ses considérations, pour tenter de créer un peu de compréhension et aussi de camaraderie, parfois là où on peut ne pas en espérer. Voilà.
Merci, c'est un super conseil. Merci beaucoup pour ton temps. Et à bientôt.
À bientôt.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager à des personnes qui pourraient être inspirées par cette thématique. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube et noter le podcast en lui mettant 5 étoiles. Cela lui permettra d'être plus facilement trouvé par les personnes qui cherchent des podcasts sur l'agroécologie. À bientôt pour un prochain épisode au cœur du vivant pour mettre en lumière celles et ceux qui régénèrent la terre.